Bientôt 8h23 à Paris, tels les trains, toujours à l'heure. Frédéric Couteau, bonjour.
Bonjour Arnaud, bonjour à tous.
C'est la revue de presse des journaux français avec à la une, bien sûr, ce mardi, l'épreuve de force.
Oui, l'épreuve de force est lancée, constate le Parisien. Ce matin, premier jour de la grève perlée, lancée par les syndicats de la SNCF. Des millions d'usagers devront batailler pour se rendre au travail. Pour l'heure, pointe le journal, une courte majorité appuie la réforme du rail. L'un des défis pour le gouvernement sera de conserver ce soutien en expliquant clairement en quoi la mise en concurrence de la SNCF, rendue obligatoire par l'Union européenne, garantira un meilleur service aux usagers. Aurait-on pu éviter cette grève ? Eh bien, oui ! Répond Libération. Il était selon toute probabilité possible de réformer la SNCF sans passer par l'épreuve de force générale, estime le journal. De toute évidence, poursuit Libération, le gouvernement Philippe a noirci volontairement le tableau ferroviaire. Non, s'exclame Libé, la SNCF n'est pas cette société au bord du gouffre qu'on décrit dans les déclarations ministérielles. Elle gagne de l'argent, elle remplit ses devoirs de service public, elle suscite une satisfaction plutôt majoritaire dans le public. Comparée à d'autres sociétés européennes, elle ne fait en rien figure de lanterne rouge. Elle doit se préparer à la concurrence, certes, à coup sûr, estime Libération, ce qui demande effort, recherche d'une meilleure productivité et d'un meilleur service. Le rapport Spinetta, nettement plus nuancé que les simplifications gouvernementales, ne dit pas autre chose et l'on peut parier, conclut Libération, que les cheminots en sont conscients si l'on met à part une minorité de partisans du statu quo.
Non, pas d'accord, rétorque Lacroix.
Si la SNCF fonctionnait à la satisfaction de tous, eh bien, il n'y aurait aucune raison de vouloir réformer cette entreprise. Malheureusement, tel n'est pas le cas, s'exclame Lacroix. Les coûts du service public ferroviaire sont élevés, à la fois pour les usagers et pour les contribuables. L'endettement est écrasant, l'entretien du réseau est insuffisant, la qualité du service déficiente, trains supprimés, retardés, mal cadencés. Même s'il n'y avait pas la perspective d'une ouverture à la concurrence dans les années à venir, les choses, estime Lacroix, les choses ne pourraient rester en l'état. Le Figaro renchérit. La SNCF, entreprise emblématique du service public à la française, la SNCF a perdu de sa superbe. Les tarifs sont élevés, les pannes fréquentes, la ponctualité aléatoire. Les syndicats auront donc du mal à faire accepter leur opposition obstinée au changement. D'autres secteurs comme les télécoms, le transport aérien ou encore l'audiovisuel se sont ouverts à la concurrence et les Français ne s'en plaignent pas. En ce printemps, notre pays est donc à un tournant. S'il ne le franchit pas, il restera durablement immobile sur une voie de garage. Pour le Figaro, on l'aura donc compris. Emmanuel Macron et le gouvernement doivent rester absolument inflexibles. Ils jouent très gros. S'ils cèdent, ils pourront dire adieu ou presque au train de réforme qu'ils entendent conduire sur d'autres fronts, notamment sur celui des retraites. Ils n'ont donc pas d'autre choix que de tenir.
Alors, s'interroge l'Est républicain, Emmanuel Macron sortira-t-il gagnant de ce conflit comme tout ce qu'il entreprend depuis quasi un an ?
Pas sûr, répond l'Est républicain, et ce fringant président risque d'y perdre son côté fraîcheur de vivre et aborder sa seconde année de mandat bien décoiffé. La bataille du rail est engagée depuis ce matin. Nous sommes ici sur nos fondamentaux français, pointe l'Est républicain, l'art de paralyser le pays au nom des luttes sociales. Il ne s'agit pas ici de nouvelles conquêtes, mais de l'espoir de sauver ce qui peut encore l'être dans une économie mondialisée où la libre concurrence risque de fissurer le sacro-saint modèle social français. Et finalement, enchaîne le journal de la Haute-Marne, finalement beaucoup dépendra de l'opinion publique et surtout de son évolution. Face à une grève au déroulement inédit, par petites tranches étalées dans le temps, l'opinion peut vite se retourner contre les syndicats, accusés de prendre en otage l'ensemble de la population et d'en perturber la vie quotidienne. Elle peut aussi, avec la même vigueur, en vouloir au gouvernement pour son intransigeance aux yeux des uns ou bien pour son manque d'autorité de la vie des autres.
Et puis attention aussi au mouvement de grogne des étudiants qui pourrait bien s'étendre.
C'est ce que relève notamment le Figaro. Le feu peut-il prendre ? S'interroge le journal. Depuis les violences, il y a 10 jours, à la faculté de droit de Montpellier, le mouvement étudiant contre la loi Vidal a pris en ampleur et en tension. Journée test ce mardi, relève le Figaro, pour la contestation étudiante qui se joint donc à l'action des cheminots. Blocage à Bordeaux, Toulouse, Tolbiac à Paris, Rouen, Nantes ou encore Nancy. Des actions aussi à Aix-Marseille et des assemblées générales dont les rangs grossissent.
À la une également la disparition de Winnie Mandela.
Winnie Mandela, mort d'une icône controversée, titre Libération. L'ex-femme de Nelson Mandela, compagne de lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud, est donc décédée hier à l'âge de 81 ans. Des affaires pénales avaient considérablement terni son image, mais jusqu'au bout, relève Libération, Winnie Mandela est restée une éternelle insoumise, une personnalité complexe. Elle emporte certes des secrets dans la tombe. Ce qui est certain, conclut Libération, c'est qu'avec elle, c'est l'une des dernières icônes de la lutte anti-apartheid qui disparaît.
Et puis le désert du Sahara ne cesse de s'étendre, c'est ce que constatent des chercheurs américains. Une étude que nous détaille le Figaro.
Oui, partout les déserts chauds gagnent du terrain. Le plus grand d'entre eux, donc le Sahara, s'est ainsi agrandi de 10% en l'espace d'un siècle, rapporte le Figaro. Du sable s'étendant à perte de vue, en vagues de dunes écrasées par un soleil brûlant sur 8,5 millions de kilomètres carrés, presque autant que la surface des États-Unis. Une vie réduite au strict minimum. Alors, pourquoi ce désert du Sahara continue-t-il de s'étendre ? L'assèchement de la région ne date pas d'hier, 11 000 ans, un assèchement naturel provoqué par l'afflux d'air chaud et sec venant des régions équatoriales. Toutefois, soulignent les chercheurs américains, un tiers de la désertification du Sahara serait lié au changement climatique, encore une fois, engendré par les activités humaines. Conséquence, entre autres, pointe le Figaro, l'assèchement du lac Tchad, qui se réduit comme une peau de chagrin d'année en année, menaçant la vie des quelques 40 millions de personnes qui vivent le long de ses rives.
Merci Frédéric Couteau, revue de presse à retrouver sur RFI.fr.